pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. J'ai choisi Le Seigneur des Anneaux de Tolkien aujourd'hui parce qu'une grande exposition est consacrée à l'auteur du Hobbit à partir de mardi à la BNF, la plus grande exposition jamais vue sur Tolkien. D'ailleurs, on en parlera longuement la semaine prochaine. Et voici la première phrase donc du Seigneur des Anneaux. Quand Monsieur Bilbo Bessac de Cul-de-sac annonça qu'il célébrerait bientôt son 111e anniversaire par une fête d'une magnificence exceptionnelle, il y eut force agitation et rumeur à Hobbitville. Le tout début donc d'une grande histoire, une fresque incroyable qui vous tiendra pendant des centaines de pages. Des romans, nous en découvrirons plein d'autres chez Laurent Geoffrin tout à l'heure. Le patron du journal Libération nous a reçus dans sa bibliothèque. L'équipe des libraires de l'émission, évidemment, se tient prête pour de bonnes idées de lecture. Et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
C'est à chaque fois un nouveau voyage. Il nous a emmenés en Sibérie déjà, en Mongolie à moto ou sur les sentiers perdus de la campagne française. Toujours avec poésie et humour. Cette fois, ce n'est pas tout à fait lui qui nous guide. Enfin, pas seulement lui. Nous suivons la piste d'une panthère. Une panthère des neiges. L'auteur, c'est Sylvain Tesson. Le livre s'appelle La Panthère des neiges, tout simplement, chez Gallimard. Et comme il est insaisissable, je suis allé directement lui rendre visite chez lui pour parler de ce nouveau livre. Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour.
Vous signez donc La Panthère des Neiges chez Gallimard. Pourquoi avez-vous décidé de partir sur ces traces? Comment ça s'est passé?
J'ai été invité par un photographe animalier qui s'appelle Vincent Meunier, qui est un artiste, qui est un photographe, et qui est un connaisseur des bêtes, et qui voue sa vie depuis maintenant une trentaine d'années à photographier, à approcher et à photographier les animaux les plus difficiles à rencontrer. Le loup, l'ours, le lynx et
le blaireau,
absolument. Il m'a invité d'ailleurs un jour à aller rencontrer des blaireaux quelque part au bord de la Moselle.
Le livre commence comme ça.
Oui, il ne savait pas que mon nom, Tesson, en vieux français, ça veut dire le blaireau. Mais l'animal, pas l'expression désagréable, ni l'instrument de rasage, enfin qu'on n'utilise plus. Et il m'a invité à venir au Tibet, le rejoindre, lors d'une de ses expéditions pour approcher la panthère des neiges, animal que je croyais disparu.
Oui, mais déjà dans le chapitre introductif, quand vous observez, quand vous attendez plutôt les blaireaux, vous nous expliquez que quand même être allongé comme ça, attendre sans arrêt avec votre envie de bouger partout, c'est très compliqué. Et vous décidez quand même de l'accompagner, attendre encore plus longtemps, mais dans le froid au Tibet.
Quand il m'a invité à observer des blaireaux dans la forêt, c'était pour moi une expérience nouvelle. Je me disais que ça allait durer quelques heures. Et j'y allais un peu à reculons parce que c'était la contradiction exacte de tout ce que j'avais vécu jusqu'alors. Moi, je vivais une vie de voyageur, d'aventurier. Je passais ma vie à courir les routes, à changer de décor, à traverser la géographie sans trop regarder ce qu'il y avait autour de moi. Je demandais au mouvement et à l'imprévu de m'apporter ma source de curiosité et d'inspiration. Et là, tout à coup, il fallait faire exactement l'inverse. C'est-à-dire attendre, se dissimuler, s'oublier dans le silence, avec patience, pour espérer voir un animal qui peut-être n'apparaîtrait pas. Eh bien, j'ai découvert qu'en fait, j'aimais beaucoup ça.
Ben justement, oui, vous partez, mais c'est le principe. Effectivement, sans être sûr de la trouver, on peut se dire, en fait, quand on lit ces lignes, que c'est ça, en fait, être un vrai voyageur, que c'est le chemin qui compte, pas tellement le but, et puis que c'est bien votre genre. Mais la phrase d'après, vous ajoutez, je n'étais pas de ce genre, moi je voulais voir la bête, même si, par correction, je n'avouais pas mes impatiences à Meunier, le photographe.
Oui, ça c'était au début. En fait, quand on vit l'affût, quand on passe des heures à attendre un animal, on finit quand même par se réformer et par tirer un enseignement de l'attente. et par se rendre compte que le simple fait d'être en observation, de regarder ce qui se passe autour de soi, ça vous procure une joie. Et c'est très intéressant. Et on ne sait pas, au fond, on passe sa vie sans savoir qu'il se passe autour de nous beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Seulement, il faut attendre pour ça. Il faut regarder les yeux ouverts. Il faut se tenir aux aguets. Il faut se tenir en haleine. Il faut se tenir à l'affût, quoi.
Mais vous démontez aussi sans arrêt les clichés sur le voyageur et sur les voyages. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours en train d'être dans la flânerie du voyageur solitaire, très poétique tout le temps, etc. Parfois, vous dites, non, mais j'ai juste envie de m'amuser aussi, de bouger. J'ai pas envie de, vous n'avez pas envie de tout le temps, quoi. Vous n'êtes pas toujours dans... Vous démontez sans arrêt ce mythe du voyageur, quand même.
Oui, c'est-à-dire que moi, j'aimais jusqu'alors l'effort physique. Je trouvais que le mouvement procure un accroissement de l'intensité de la vie. J'aimais aller jusqu'à l'épuisement sur les routes. Avec une certaine fantaisie, c'est-à-dire le nez au vent, sans très bien savoir ce que je voulais. La seule chose que je voulais, c'était avancer. Il fallait que le paysage défile. Et voilà que tout à coup, on me propose l'inverse. Et j'ai fini par m'apercevoir que si vous demandez au temps qui passe, de vous apporter des micro-nuances de changement dans votre environnement et le paysage que vous regardez, eh bien, au fond, ça a autant de valeur que si vous demandez la même chose au défilement de l'espace.
Vous expliquez aussi que vous prenez évidemment le RER pour rejoindre l'aéroport, mais avec votre veste arctique et vos bottes de l'armée chinoise. Et ça, j'y avais jamais pensé. Et vous partez toujours au bout du monde, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce départ quand même dans le RER. Est-ce qu'il y a des gens maintenant qui vous disent « Ah bah Sylvain Tesson, mais vous partez où avec votre accoutrement là ?»
Non, pas vraiment, mais ce jour-là, j'emmerdais tout le monde en fait, parce que c'était en pleine heure de pointe. C'était le RER qui m'amenait à Roissy. Et comme j'avais une surcharge de bagages, j'avais mis tous mes habits pour un séjour à 5000 mètres d'altitude sur moi pour décharger mes sacs. Et j'avais vraiment l'air des Dupont dans le Tintin d'Hergé qui se déguisent comme selon les coutumes du pays qu'ils vont visiter. Sauf que là, j'étais à Paris en 2020 et en 2019 et j'avais vraiment l'air d'être un extraterrestre, quoi. Et puis en plus, moi j'étais couvert pour supporter moins 40 et le RER est assez bien chauffé maintenant. Donc finalement, c'était la partie la plus difficile de ce voyage.
Et donc vous partez au Tibet, vous connaissiez déjà un peu, vous l'avez parcouru à vélo notamment, je crois. Mais c'est ce que j'aime bien quand je vous lis, c'est que vous ne vous extasiez pas devant tout. Quand vous arrivez, il y a pas mal de routes à faire et vous écrivez ceci. L'air sentait le métal, sa dureté n'invitait à rien, ni à la flânerie, ni au retour. Ça, c'est le privilège de ceux qui voyagent beaucoup quand même. Sans être blasé, c'est cette capacité à ne pas être ébobie devant tout ce qu'on voit parce que c'est loin et donc exotique.
Oui, mais c'est facile de ne pas être ébobie quand on voyage au Tibet, parce que le Tibet, c'est une région très hostile et très dure. C'était le mois de février, vous êtes propulsé directement à 4000 mètres d'altitude. Vous manquez d'air, il fait très froid et il faut s'imaginer un paysage qui est très lugubre. Ce sont des plateaux qui sont rabotés par le vent. Ça fait des millions d'années que les hivers sont terribles là-bas. Et si vous n'êtes pas très sensible à la géographie lugubre, stérile et désespérée, ben vous avez vraiment l'impression que vous vous demandez ce que vous faites là. Le Tibet n'est pas du tout un pays facile à l'œil, qui correspond à ce qu'on va chercher quand on se dit qu'on prend quelques temps pour un séjour agréable. Non, c'est très dur. C'est un territoire très dur. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est pratiqué par des nomades, d'une certaine manière, qui ne font que passer et qui se sont adaptés sublimement à la difficulté climatique et géologique.
On fait une petite pause, mais on reste au Tibet. On s'y retrouve dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La voie est libre.
Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre et chez Sylvain Tesson qui nous accueille pour parler de son nouveau livre La Panthère des Neiges chez Gallimard, à la poursuite de la Panthère des Neiges au Tibet, dans le froid, avec la patience que ça implique, parce que c'est très compliqué de trouver une Panthère des Neiges. On découvre à la fin si oui ou non vous en avez trouvé une ou pas, on va pas le dire tout de suite. Mais pour l'instant, vous êtes arrivé au Tibet et vous observez le paysage et le pays. Et surtout, la domination chinoise, pas par des installations militaires, par les infrastructures toutes neuves.
Une autorité, quand elle veut soumettre un peuple, elle n'a pas 36 solutions. Soit vous envoyez la troupe, et vous déployez la police, et vous faites régner la terreur. En général, c'est ce qui se passe dans un premier temps. Et puis, le deuxième chapitre de la domination, c'est ce que Lénine appelait l'électrification du pays, c'est-à-dire c'est l'aménagement du territoire. Vous construisez des routes, vous construisez des hôpitaux, vous construisez des écoles, et vous tuez par l'aménagement que vous faites, par le progrès que vous instillez dans le pays, le développement, l'aménagement, vous tuez les raisons de la rébellion. Parce que vous dites aux populations, mais de quoi vous plaignez-vous ? Regardez, nous sommes en train d'aménager votre pays et de vous développer. Et puis, il ne faut pas se leurrer, le centre de Pékin, quand ils aménagent le Tibet, derrière l'école et derrière l'hôpital, il y a toujours la caserne ou le poste de police.
Et vous citez Jack London, vous ne perdez jamais une occasion de citer Jack London, et vous dites « Quiconque nourrit un homme est son maître ».
Oui, c'est un petit livre de Jack London qui a été republié récemment dans une nouvelle traduction aux éditions du Sonneur, « Quiconque nourrit un homme est son maître », et ça exprime exactement cette modalité de la coercition. Ça veut dire que vous nourrissez, vous tendez la main, mais derrière, il y a l'arrière-pensée de la soumission.
Alors, en attendant de croiser une panthère, en attendant le bon vouloir des dieux, c'est-à-dire du hasard, dites-vous, vous observez les yaks, puisque le photographe que vous accompagnez est aussi là pour ça. Et hop, une digression sur le monde moderne et l'économie de la viande rouge. En fait, vous partez toujours loin, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de faire référence au monde civilisé. Tout vous y ramène sans arrêt. C'est malgré vous, ça ?
Bon, je ne sais pas, c'est peut-être une distorsion de l'esprit, c'est peut-être la manifestation d'un gâtisme précoce. Mais voilà, moi je suis ainsi fait. Quand je vois quelque chose, d'abord, je le décris, je le constate, parce que j'aime les mots, j'aime l'exercice qui consiste à peindre un décor, mais immédiatement, il me vient une idée. Alors, elle est plus ou moins bienvenue, elle est plus ou moins bien formulée, malheureusement, plutôt mal que bien, mais enfin, je ne peux pas m'empêcher de voir une signification, un symbole dans les réalités qui se présentent devant moi.
Ou un opposé sur les chemins noirs, au fin fond de la campagne française, vous parliez du coup des villes aussi.
Oui, mais enfin, il me semble que c'est assez commun, ça. C'est simplement la digression, quoi. On voit le particulier, on pense à quelque chose de plus général. Et moi, je voyais ces yaks sauvages qui étaient devant nous, parce que Vincent Munier, le photographe, est un passionné du monde sauvage. Et pour lui, le yak sauvage est l'incarnation parfaite de ces animaux qui viennent des temps immémoriaux. C'était exactement les mêmes yaks qui était peint sur les cavernes préhistoriques. Et vous voyez, là, rien qu'en vous parlant des yaks que j'avais devant moi, eh bien, ça nous ramène aux cavernes préhistoriques. C'est un mouvement assez commun de l'esprit. On va un peu plus loin que la simple chose qu'on voit.
Je ne sais pas si c'est commun mais pour tout le monde, mais en tout cas, c'est commun chez les écrivains, ça c'est sûr. Les écrivains voyageurs en particulier, d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà voyagé sans ramener des notes et publier un livre derrière ?
Mais pas tellement, parce que moi, c'est un exercice que j'aime, transformer les sensations que j'éprouve ou les quelques réflexions qui me traversent l'esprit en notation, ça me plaît, c'est une très belle alchimie. Vous mettez le monde en mots. Y en a qui aiment prendre des photos, comme Vincent Meunier, il y en a qui aiment faire des films. Moi, j'aime convoquer les mots pour raconter ce que j'ai vécu.
Alors ensuite, il y a beaucoup d'attentes dans ce livre, évidemment, et vous comparez justement cette attente et la venue des bêtes, quand elles apparaissent, à des apparitions, précisément, mais au sens quasi religieux.
Oui, pour moi qui suis athée, j'ai eu des expériences d'ordre spirituel quand je voyais arriver ces bêtes. C'est pas simplement le décor qui s'anime avec une zoologie sympathique qui court dans les horizons, non. C'est tout à coup quelque chose, un animal que vous avez attendu, avec beaucoup de patience, en souffrant modérément, mais il faisait froid, vous n'êtes pas très confortablement installé, et tout à coup, une bête, sans que vous l'attendiez, semble jaillir du paysage. Vous ne la voyez pas venir, elle apparaît. Vous avez même l'impression que tout à coup, elle se dessine à l'endroit où votre œil se posait, mais ne la voyait pas, et tout à coup, elle surgit, elle apparaît, elle se révèle, comme on dit dans la photographie, comme autrefois quand, dans l'argentique, quand on développait une photo, on la mettait dans un bain révélateur. Eh bien, le monde est un bain révélateur, mais pour que les choses se révèlent, il faut de la patience.
Il y a une scène incroyable, donc je rappelle que vous êtes dans une cabane, vous êtes quatre, il fait moins 20 degrés, et puis tout à coup, on entend des loups au loin. Bon, et votre ami photographe, il se trouve qu'il parle le loup. Donc il se met à ululer, il hurle avec le langage des loups, et le loup lui répond. Et puis tout à coup, y a le loup qui se dessine au loin, mais surtout qui court vers vous. Et là, vous flippez un peu quand même.
Oui, parce que Vincent Meunier hurle avec les loups, enfin il chante comme un loup, il préfère dire chanter que hurler. Et il réussissait à identifier combien il y avait de loups. Moi, je n'entendais que le même hurlement. Et il me dit, ils sont 8. Alors, c'est formidable parce qu'il réussissait à détecter le nombre de ses interlocuteurs. Et puis, il commence à entretenir une conversation avec le loup qui était assez long, on ne les voyait pas. Et tout à coup, l'un des loups est venu comme un ambassadeur vers notre position, alors que nous, on pensait être camouflés, mais visiblement, il voyait d'où. Il détectait le loup d'où venait le chant de mon camarade et il est arrivé vers nous, ce qui est une vision assez désagréable. Vous voyez un loup qui galope vers vous et vous vous dites, il est peut-être temps d'opérer une retraite. Et puis, comme mon ami Vincent Meunier paraissait très tranquille...
Oui, vous dites, t'inquiète pas, il va s'arrêter 10 mètres avant.
Ça, c'est comme quand il y a des turbulences dans l'avion. Alors, vous regardez l'hôtesse de l'air et puis si vous voyez qu'elle est calme et que ça lui fait rien, vous dites que c'est pas très grave. Mais c'était la même chose. Et effectivement, le loup s'est arrêté à une cinquantaine de mètres de nous. Il a dû détecter que c'était tout à fait bizarre qu'il ne voit pas un congénère. Et il a pris la tangente et on l'a perdu dans les rochers.
Alors, la grande idée du livre, enfin, selon moi, évidemment, il y a la panthère que vous finirez sans doute par observer, même si c'est compliqué à observer puisqu'elle se fond dans le paysage, la panthère des neiges, par définition. Mais la grande idée, c'est que pour trouver une panthère des neiges, il faut quitter le monde des hommes. Et qu'il y a une formule que j'oublie, mais je la résume, c'est que la nature se cache, finalement.
Oui, ça, la nature se cache, c'est une pensée c'est un fragment d'Héraclite, Héraclite d'Éphèse, qui est un philosophe grec présocratique. C'est une pensée, c'est une phrase qui est assez mystérieuse. La nature aime à se cacher. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais on comprend quand même que la vie, à un moment, qu'elle soit cellulaire ou multicellulaire, qu'elle soit très sophistiquée ou très modeste, qu'elle soit très grosse, très imposante, comme les mammifères marins, ou très petite, comme un insecte, la bête sauvage, cherche toujours la discrétion, le repli, la rétractation. La patrie des bêtes, c'est l'interstice, c'est la dissimulation, c'est le camouflage. Il y a très peu de bêtes qui sont dans l'ostentation, sauf quand elles sont dans leur période des amours, elles s'adressent les unes aux autres. Le paon fait la roue, la baleine chante, mais le reste du temps, les bêtes essayent de se cacher, et elles ont bien raison, surtout quand elles rencontrent les hommes.
Elle se cache aussi dans ce livre à découvrir et sa recherche est aussi belle que sa découverte. Merci beaucoup Sylvain Tesson. Quel est le prochain voyage ?
Pour l'instant, je reviens du Tibet parce que je suis reparti la semaine dernière avec Vincent Meunier pour voir des panthères et nous avons eu la chance de tomber nez à nez, c'est le cas de le dire, nez à museau devant des ours du Tibet. C'est un animal que Vincent Meunier n'avait jamais vu lors d'une quinzaine de séjours au Tibet. C'était très saisissant. Et ça m'a confirmé qu'il n'y a rien de mieux que l'affût. À un moment, il faut s'arrêter et ouvrir les yeux.
Merci beaucoup, Sylvain Tesson. Europe 1. Retour en studio à Europe 1. Dans un instant, chers auditeurs, c'est à vous de me dire quel est votre grand livre. Cette semaine, c'est Vianney de Bordeaux qui se prête au jeu. Il va nous parler de La promesse de l'aube de Romain Gary. A tout de suite.
La voix est livre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix et Livre, chaque semaine je vous demande quel livre a changé votre vie ou quel roman vous a marqué. Ça peut être un grand classique, un livre culte, un roman inconnu, tout me va. Et cette semaine c'est donc Vianney qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Vianney.
Bonjour Nicolas.
Alors, vous nous avez appelé parce que vous, L'un de vos grands livres, vos livres préférés, c'est « La promesse de l'aube » de Romain Gary. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce que c'est que « La promesse de l'aube » ?
Ah, c'est compliqué. Avant d'être un livre, je pense que c'est un titre. « La promesse de l'aube », vous savez, ça fait partie un peu de ce patrimoine national. On a l'impression d'avoir toujours connu ce nom-là. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il a toujours fait partie de moi et que j'en ai toujours entendu parler. C'est un peu comme « Le dormeur du Val », c'est un titre de poème. Et vous dire exactement depuis quand je connais le livre, j'en ai aucune idée. Et comment il est arrivé dans mes mains, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas trouver plus beau titre pour raconter une histoire d'enfance. La promesse, vraiment, la promesse de l'aube, c'est, enfin, de mon point de vue, c'est la promesse d'une mère à un fils quand elle lui explique qu'elle l'aime tellement que sa vie va être extraordinaire et que cet amour qu'elle lui donne, c'est l'amour qu'il recevra toute sa vie parce que la vie est faite de tout ça. Et c'est aussi sa déception à Romain Gary, enfin Roman Kassef dans le livre, parce que lui, il ne retrouvera jamais, à aucun moment, le même amour qu'il a reçu dans les premières années de sa vie. Donc, il y a une promesse qui, peut-être, sera déçue. Et puis, la promesse d'une mère qui lui dit tu ne peux pas avoir une vie ordinaire, tu dois être extraordinaire, je vais te préparer à ce que tu sois extraordinaire, que tu sois beaucoup plus fort que les autres, beaucoup puissant, et que tu sois, alors, ça revient des centaines de fois dans le livre, mais général d'Empire, ambassadeur de France, écrivain, et franchement, celle-ci, il la tient. Enfin, de mon point de vue, il la tient vraiment, cette promesse-là. Écrivain, c'est sans doute un des plus grands écrivains, de mon point de vue, de la littérature française du XXe siècle. Chose impossible, deux fois lauréat du Goncourt.
Oui, ambassadeur de France. En changeant son nom pour Émile Ajar.
Exactement.
C'est-à-dire, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que Romain Gary a eu le Goncourt et puis il l'a eu encore avec, sous un pseudonyme, Émile Ajar.
Ce n'est jamais arrivé
dans le Goncourt d'être deux fois lauréat. Alors c'est amusant parce que vous confondez vous-même volontairement le héros de La promesse de l'aube avec l'auteur Romain Gary. C'est ça ce qui est formidable aussi.
Bah c'est un peu, il nous emmène un peu vers ça en fait. Alors c'est un vieillard qui raconte sa vie. Il y a une temporalité dans laquelle il nous laisse penser qu'il est en train de nous raconter les plus belles années de sa vie, allongé sur une plage en train de regarder les étoiles. Mmh. Et au final, il ne fait que nous raconter quoi, 15 à 20 ans de sa vie, entre ses 5-6 ans et ses 22-23 ans. Mmh. Mais il a tellement vécu de choses, il a tellement été porté par la puissance de sa mère pour avoir une vie extraordinaire, que ces 20 ans-là, ni vous ni moi ne vivrons un quart, enfin je vous le souhaite, mais ne vivrons le quart de ce que lui-même a vécu. Donc oui, c'est un livre sur une vie, mais c'est avant tout un livre sur une mère. Il revient tout le temps, le mot mère. Mmh. Et plusieurs fois par page, il faudrait que quelqu'un s'amuse un jour à compter.
Ce sont aussi des personnages de La promesse de l'aube, notamment un que vous aimez beaucoup, vous me l'avez dit avant en préparant cette émission, c'est un certain monsieur Piekielny.
Oui, au chapitre 7, une petite souris triste, juive, un petit personnage insignifiant dans la vie de tous les jours, mais qui va prendre une place importante dans le livre de Romain Gary. Parce que Romain Gary fait une promesse, enfin, en tout cas nous raconte avoir fait une promesse à cette personne-là, qu'il tiendra, je ne veux pas dévoiler l'histoire. Et puis, ce monsieur Piekielny, il vient de réapparaître dans la littérature récente, je crois il y a 2 ans, à travers un génial bouquin, celui de François-Henri Désérable, certain monsieur Piekielny, qui part de ce chapitre 7, et qui va mener une enquête sur qui était ce personnage-là.
Ouais. Ce monsieur Piekielny demande au Romain Gary jeune de bien vouloir dire qu'à Villeneau vivait un certain monsieur Piekielny. Il lui dit, parce qu'il est persuadé lui aussi, que Romain Gary va devenir quelqu'un d'extrêmement célèbre et connu et qui côtoiera les grands de ce monde.
Et il tiendra sa promesse. En tout cas, le roman le raconte.
Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, François-Henri Désérable est un auditeur de cette émission et on le salue bien bas.
Ah, super.
Et on vous salue super. Aussi. Merci beaucoup, Vianney. Merci pour ce choix, La promesse de l'aube de Romain Gary. C'est magnifique. Merci beaucoup.
Merci, Nicolas.
Europe 1.
Et si vous aussi, vous voulez partager le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez, écrivez-nous. Il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission où vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres. Nous partons visiter la bibliothèque du patron de Libération, Laurent Geoffrin. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est livre.
Et il est temps de quitter un peu ce studio. Laurent Geoffrin, le directeur de Libération, publie un nouveau livre, Le roman de la France de Vercingétorix à Mirabeau, chez Talendier. J'ai profité de l'occasion pour me glisser dans sa bibliothèque et vous emmener avec moi, bien sûr. Allons-y. Bonjour Laurent Geoffrin.
Bonjour.
On vous interrompt en pleine séance de repassage. On entend un peu le bruit derrière. Oui. Mais la machine est arrêtée.
Bon, c'est bien.
C'est pas une cocotte minute. Merci de nous recevoir chez vous. On est dans Paris, dans un joli appartement avec des poutres apparentes, avec du bois brut, comme ça, c'est très beau. Et un double salon avec des livres tout autour, partout. Je suis pas déçu. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à trouver des livres chez vous, mais peut-être parce que vous êtes l'auteur de 25 livres vous-même.
Oui, parce qu'on fait des livres avec des livres, en fait. Donc, voilà.
C'est ça.
Donc il en faut beaucoup pour en faire quelques-uns.
Est-ce qu'on peut concevoir un auteur qui ne lit pas ?
Ça me paraît difficile. Il y a peut-être des gens qui ont la science infuse, mais non, oui, bien sûr, il faut lire tout le temps. Mais...
Donc là, on s'est approché de la bibliothèque.
Oui.
Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas bien par quoi commencer. Et d'abord, est-ce qu'il y a un classement particulier ?
Non, c'est un désordre complet.
Mais alors, on voit quand même quelques pléiades là, qui sont bien rangées, les beaux livres en haut. Et là, il m'attire l'œil.
Mon épouse a été longtemps éditrice de beaux livres.
D'accord,
donc,
voilà.
Tout le haut est rempli en partie de ses productions.
Il y a quelques livres anciens, ça m'intéresse toujours, on y reviendra tout à l'heure. Oui. Mais il y a des livres un peu moins anciens ici, mais très très beaux, style série noire.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque-là ? Il y a le Grande de cimetière, il y a la chair de l'orchidée dans des éditions d'époque. C'est superbe ça. Vieux série noire. C'est vous qui
lisez
ça ?
James Chase. J'ai lu. Je ne lis plus maintenant, mais j'étais fan de romans policiers à un moment. Oui. Mais je suis un spécialiste de Sherlock Holmes, par contre.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Sherlock Holmes ?
Ah, c'est le personnage qui est formidable, qui est plein de contradictions. Et puis c'est le triomphe de la raison, pour employer des mots un peu solennels, mais... Sherlock Holmes est confronté à des énigmes complètement baroques, bizarres, on pense qu'il y a de l'irrationnel là-dedans. Et comme il a une méthode policière, qu'il a pratiquement inventée d'ailleurs, qui est fondée sur les indices, sur le raisonnement, sur la déduction, il fait triompher la raison contre l'obscurantisme et la déraison.
D'ailleurs, il peut résoudre une énigme depuis son salon, en fait. Il n'a pas tellement besoin de...
Oui,
il peut chercher des indices, mais enfin...
lire un article et dire, voilà, c'est le majordome ou c'est la vieille tante, etc.
Et Watson, alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que vous ne l'aimez pas plus que Sherlock Holmes ?
Non. Mais Watson est sympathique, il est plein de... Autant Holmes est bizarre, contourné, égocentrique, insupportable. Watson, c'est le... D'abord, il représente le lecteur qui voit agir le génie de la déduction. Et puis, il représente un bon sens victorien, une certaine générosité, d'ailleurs, une certaine empathie, et un courage physique que Holmes a également, mais Watson l'a beaucoup.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a beaucoup de séries noires, donc. Il y a la collection blanche, il y a une jolie petite fille qui est en photo devant. Il y a des photos devant vos livres. Est-ce qu'il y a...
La famille.
Oups là, je viens de casser un cadre, pardon.
Ah oui, attention, vous avez tout caché.
Je suis désolé. Mais alors, comment vous faites pour vous servir dans vos livres ? Faut tout bouger à chaque fois, c'est pas pratique quand même.
Oui, mais je reçois tout le temps, alors je lis plutôt les nouveaux que les anciens. Il y en a vers lesquels je reviens en permanence, ça c'est vrai.
Parce que là, je viens de dévoiler des anciens de la série blanche, de la blanche de chez Gallimard. Il y a des belles choses. Il y a du Modiano. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Modiano ici aussi.
Ah ben c'est la musique qui est importante chez Modiano.
La musique du
la
style
musique de la langue.
Comment vous définissez la musique de Modiano ? C'est compliqué.
C'est mélodique et en même temps à bas bruit. C'est-à-dire que ça, il y a pas de grandiloquence. Il y a beaucoup d'économie de moyens. Mais c'est une mélopée, c'est lancinant comme ça, et donc c'est fascinant à lire.
Vous publiez des essais ?
Oui.
C'est toujours compliqué de mettre son style dans des essais, et à la fois c'est indispensable, mais est-ce que...
J'ai fait des romans aussi.
Certes, je ne les ai pas lus, j'ai lu vos essais.
Oui,
est-ce qu'on y pense pour les essais, au style aussi, et est-ce qu'on ne se freine pas un peu ?
Il faut essayer d'être clair, d'abord. Après, il faut mettre des formules, il faut ramasser, il faut qu'il y ait des aphorismes, il faut qu'il y ait certaines figures de style, mais l'essentiel c'est qu'on oublie qu'on lit un livre, et donc il faut pas en faire trop dans la fêterie et dans l'ornement. Il faut que aller droit au but, à l'idée, quoi. À l'idée ou au récit éventuellement.
Vous avez publié une trentaine de livres. Mm-hmm. Un livre, ça rapporte pas beaucoup d'argent, c'est beaucoup de travail.
Ça dépend.
Qu'est-ce qui vous pousse à le faire ?
Je fais ça pendant les vacances, c'est mes vacances.
C'est un plaisir, quoi.
Un plaisir d'écrire, oui. De lire d'abord pour travailler les dossiers, lire des documents ou lire des bouquins. Déjà, c'est amusant parce qu'on découvre à chaque fois des choses qu'on ignore, donc c'est le plaisir d'apprendre. Puis ensuite, le fait de mettre devant mon ordinateur et d'écrire me détend, me change les idées par rapport aux soucis de la vie. Donc, c'est pas un effort.
Et qu'est-ce qui vous fait choisir d'écrire plutôt un essai qu'un roman cette fois-là ?
C'est l'occasion, l'opportunité, l'actualité. C'est très variable. Là, j'ai fait une histoire de France parce que je m'intéresse à l'histoire depuis toujours et je me suis dit qu'il fallait contribuer au débat sur l'identité nationale. Donc j'ai essayé de faire ce récit de l'histoire de France, un peu comme un roman d'aventure, mais un roman vrai. Et donc là, j'avais une motivation à la fois personnelle et politique. Mais d'autres fois, c'est le plaisir de raconter une histoire. J'ai écrit l'histoire d'une princesse indienne qui s'est engagée dans les services secrets britanniques. C'est le personnage m'a fasciné et l'histoire est formidable.
Et en parlant d'histoire, je vois en même temps sur votre cheminée un buste.
Ah oui, le buste de l'empereur.
C'est Napoléon, ouais.
Eh oui, mais c'est un Napoléon en cire.
Oula.
Il y a une mèche là, c'est une bougie en fait.
Ah d'accord.
Ce qui prouve le caractère éphémère et friable des empires.
Mais vous l'avez jamais allumé, vous ?
Non, parce que je la garde, c'est un cadeau, hein. C'est pas moi qui l'ai acheté. Je ne suis pas un collectionneur d'objets napoléoniens, mais enfin, tout le monde connaît mes marottes, donc on m'a une fois offert cette bougie en forme de Napoléon.
Oui, il faut dire qu'on ne l'a pas encore expliqué, mais vous êtes un obsédé de Napoléon.
Obsédé, non.
Ah, un peu, quand même. Qu'est-ce qui vous fascine tant ?
Je ne suis pas bonapartiste, parce que c'est le personnage le plus fascinant de la Révolution française, en tout cas. Donc j'aime beaucoup la Révolution française à lire, c'est un drame formidable. Et puis, c'est notre histoire, c'est notre origine. Enfin, c'est ce que je considère être comme notre principale origine. Et le personnage le plus romanesque de toute cette affaire, c'est Napoléon Bonaparte, qui ensuite a trahi la Révolution, comme on sait. Mais justement, c'est ça qui fait l'intérêt de la chose. C'est une tragédie.
Il y a des livres anciens aussi, je disais. Qu'est-ce que c'est ? C'est le dictionnaire de l'Académie, là-haut. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas toutes les lettres. Mais vous aimez
Internet, il n'y a pas besoin d'avoir de dictionnaire. Maintenant.
Vous aimez l'objet livre, les livres anciens comme ça qui
racontent. Oui, j'aime bien les livres anciens, mais je n'ai jamais consacré beaucoup de temps et d'argent à me procurer des vieilles éditions. Donc, il y en a quelques-unes comme ça, mais tout ça a été accumulé au fil des années sans plan ni ordre. Mais il y a des livres auxquels je tiens beaucoup. Par exemple. Alors celui-là, c'est George Orwell, qui n'est pas très connu, ça s'appelle Écrit politique, c'est des chroniques qu'il faisait. Mais c'est un esprit... justement, qui sait penser contre son camp et contre lui-même.
Vous aimez ce livre en convictions. Particulier
oui, ou parce
1984
que...
aussi, La ferme des animaux.
Celui-là en particulier, parce qu'il est moins connu d'abord, et deuxièmement, parce qu'il parle directement soit de littérature, soit de débat public, soit de politique. Il donne ses idées qui sont très justes et très fortes. C'est un socialiste, enfin, même radical, mais en même temps, c'est un anti-totalitaire, il est anticommuniste. Et il est anticolonialiste et il a pris des positions extrêmement courageuses qui lui ont valu l'opprobre, y compris des milieux intellectuels. Donc c'est un exemple même de courage intellectuel.
Et de modernité, parce qu'aujourd'hui on en...
Et de modernité, parce qu'il faut des gens comme ça.
Je vois beaucoup de livres sur les codes secrets aussi. Vous avez écrit un livre qui s'appelle La grande histoire des codes secrets.
Absolument. Je me suis passionné pour ça, parce que l'espionne dont j'ai raconté l'histoire était... membre d'un service secret britannique qui s'appelle le SOI, et pour transmettre ses messages de France jusqu'en Angleterre, elle était obligée de coder ce qu'elle envoyait par radio pour éviter que les Allemands puissent lire les messages. Et donc j'ai été obligé d'apprendre le code. Et ensuite je me suis intéressé aussi à travers Holmes et Jules Verne aussi au code secret. Dans le voyage au centre de la Terre, ça démarre sur une énigme de code secret. Et dans Holmes, et dans Edgar Poe, il y a deux nouvelles qui sont fondées sur un code secret à déchiffrer.
Et vous en connaissez des codes secrets maintenant ? Vous êtes capable de coder une lettre comme
oui,
ça ?
Oui, je peux coder. Mais
quel est le code secret que vous préférez ?
Le code secret que je préfère ?
Le plus malin, celui où vous êtes dit, oh, les gars...
De toute façon, cette histoire est finie. Maintenant, c'est les ordinateurs qui font ça et c'est absolument indétectable. Non, l'histoire qui me fascine le plus, c'est Enigma. C'est l'histoire de la machine à coder allemande. Et le code secret, il y a celui de Louis XIV qui est assez subtil.
Le chiffre de Louis XIV qu'on a mis bien 200 ans à déchiffrer.
Oui, on l'a mis très longtemps. Parce qu'il y a des pièges.
C'est-à-dire
par exemple, il y a des lettres. Il y a une lettre qui veut dire ne tenez pas compte de la lettre suivante. Alors, il faut le savoir. Donc la première lettre ne vaut rien et la deuxième aussi. Donc si vous vous acharnez à décrypter ces deux lettres, vous pouvez passer votre vie, mais ça ne veut rien dire.
Et vous connaissez des grands maîtres en cryptologie qui ont déchiffré des codes improbables ?
Il y en a un qui, j'ai oublié son nom, celui qui a déchiffré le code allemand juste avant l'offensive de l'armée allemande en 1918. C'est un capitaine. Il a déchiffré en une nuit un des messages allemands et il a réussi à dire voilà, ils vont attaquer à tel endroit. Ouais. Et c'était l'ultime offensive des officiers allemands, de l'état-major allemand. Et ça a abouti à l'effondrement de l'armée allemande et à l'armistice de 1918. Donc ce type-là a changé l'histoire grâce à son intelligence de déchiffreur de code.
L'esprit de l'île, mémoire de Porquerolles de Pierre Buffet. Qu'est-ce que c'est ?
Porquerolles, c'est une île formidable qui se trouve au large de la Côte d'Azur. Et ça, c'est je connais ce monsieur qui est propriétaire de l'hôtel qui est sur l'île de Porquerolles. Il m'a offert le livre qui raconte l'histoire de l'île.
C'est amusant, ça. Dans toutes les îles, il y a l'historien du coin qui est passionné, qui sait plein de choses.
Oui. C'est toujours passionnant à lire, d'ailleurs.
Il y a des très belles photos, format paysage, pardon. J'ai fait
absolument
tomber une carte postale, justement.
Mais ça fait partie des aventures de voile.
Mais en même temps, au milieu de l'océan, on ne rencontre pas grand monde, si. Mais on se rencontre
îles.
Soi-même.
C'est pour ça qu'il y a des îles. C'est pour éviter que les navigateurs s'ennuient.
Mais c'est ce que vous cherchez un peu, l'ennui, quand vous allez sur votre bateau, non ?
Ah non, moi j'aime bien les escales.
Ah d'accord.
Mais l'escale ne vaut que si on a fait une traversée.
Voilà, c'est ça. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, Laurent Geoffrin.
Mais je vous en prie.
On va mettre les voiles, nous.
Eh bien là.
Merci beaucoup.
Bon vent.
À bientôt.
Europe 1.
De retour en studio, merci à Julien Or pour la prise de son. Et je rappelle le titre du nouveau livre de Laurent Geoffrin, Le roman de la France, de Vercingétorix à Mirabeau, c'est chez Talendier. Restez là, les libraires de La Voix et Livre s'installent. Ils ont apporté chacun un livre avec une mission, vous donner envie de les lire. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est Livre.
Retour dans La Voix est Livre avec l'équipe des libraires. Ils défendent le livre au quotidien. Grâce à eux, les trottoirs sont bordés de romans. Aujourd'hui, Jérémy Banel de la librairie Lamartine à Paris et Pauline Carayon du CNL, le Centre National du Livre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour Nicolas.
On commence avec vous Jérémy. Attendez, on met juste une polaire avant de vous écouter. Allez-y.
Oui, une polaire et même deux ou trois peut-être en peau d'ours ou en peau de bœuf musqué. Puisqu'on part dans le très grand nord, chez les Inuits, on n'en sait pas plus, donc ça sera au nord du cercle polaire, et on va suivre les aventures de la jeune et malchanceuse Uxuralik, j'espère le prononcer correctement, qui une nuit quitte l'igloo familial et est victime d'une rupture dans la banquise. Et donc elle part, elle dérive toute seule ou quasiment toute seule puisqu'elle ne peut plus rejoindre l'igloo. Il fait évidemment très froid.
Sa famille a entendu qu'elle dérivait.
Sa famille a entendu
qu'elle
avait, son père a entendu.
Ils ont pu juste assister au spectacle d'elle en train de dériver.
C'est ça. Et son père a eu la présence d'esprit de lui lancer de quoi survivre d'une certaine façon, c'est-à-dire une peau d'ours pour le coup et un petit couteau. Et sa chienne a aussi eu la possibilité de venir la rejoindre. Et elle part, et elle dérive, elle est toute seule, elle sait qu'elle aura peu de possibilités de revenir par ses propres moyens de là d'où elle vient. Ça commence donc comme un récit de survie. On va suivre ses aventures, c'est une vraie aventure, mais c'est surtout un livre très 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 poétique, donc de Bérangère Cournu, qui avait déjà écrit un livre qui se passait chez les Indiens Hopi. Et cette fois, à l'issue d'un gros travail de documentation, entre autres, elle met un certain nombre de photos à la fin du livre, elle a travaillé au Muséum d'Histoire Naturelle pour prévoir ce livre-là. C'est une véritable plongée dans ces cultures qu'on connaît si peu. Elle a cette capacité à se glisser dans les personnages de façon très très touchante, très très poétique, et de nous décrire à travers les aventures de cette jeune fille une culture et un monde qui sont en train de disparaître et qui sont terriblement différents du nôtre, au-delà du folklore. C'est aussi une façon simplement d'habiter le monde, de vivre, d'imaginer les relations à la nature qui n'ont rien à voir avec les nôtres et qui sont particulièrement touchants et qu'on découvre avec un grand bonheur dans ce roman qui est à la fois une histoire d'amour, un roman d'aventure, une découverte proche de ce qu'on pourrait lire sous la plume d'un anthropologue, mais avec encore une fois une écriture, une poésie, une sensibilité rare dans un livre assez ramassé, mais très très touchant.
Ouais. C'est d'abord un roman d'aventure, mais c'est vrai que quand on l'a fermé, on a appris beaucoup sur les Inuits et sur la banquise, etc.
C'est ça, et sur la diversité de...
Très documenté.
Très documenté, la diversité de leur vie, de leur façon d'exister, de leurs coutumes, qui dépassent le simple fait du froid.
Et ça s'appelle De Pierre et d'Os, on
ça
l'a
s'appelle
pas
de Pierre et d'Os,
au...
on l'a pas dit.
Tripode.
Aux éditions de Tripode, exactement.
Et elle a reçu le prix FNAC pour ça.
Tout à fait.
C'est un grand prix. Pauline Carayon, vous avez lu, vous, un grand auteur.
Oui, j'ai lu Le Cherokee de Richard Mangiève, qui a reçu d'ailleurs le Grand Prix de littérature policière 2019. Et bien, j'ai compris pourquoi en le lisant. Alors, avec Le Cherokee, on a affaire à un polar mystique. Et comme son héros, Nick Corey, on enfourche la Harley, on kick, le moteur pétarade, et à nous les forêts de l'Utah et le désert du Colorado. Alors, difficile de résumer le bouquin de Richard Morgiev, mais allons-y gaiement, et je vais commencer par une citation.
S'il vous plaît.
Ouais, merci Nicolas. Aucun homme ne tenait en quelques lignes d'une quelconque page. Les lignes droites existaient sur les feuilles de papier. Il n'y avait pas de lignes droites dans l'espace. Le hasard était le tout. Et oui, il fait sacrément chaud dans le cœur du shérif. Et pourtant, on est en pleine guerre froide, en 1954, exactement. Coincé entre la menace atomique et les martiens. Le ravin américain, on en est loin, entre les bouseux, les mormons, le macartisme et le racisme. Mais voilà, un avion sabre vient de s'écraser, seul engin capable de transporter la bombe et pas de pilote. Et manque de bol, Corey doit aussi élucider l'affaire de la vieille Hudson, abandonnée à l'orée de la forêt. Information hot dog, on va dire, entre... complot contre la nation et un tueur en série, Corey a intérêt à la jouer fine. Et par-dessus le marché, l'amour lui tombe dessus. Aïe, j'ai envie de dire. Mais il a une drôle de gueule, ce Nick Corey. Il ressemble à un Apache. Rien à voir avec ses parents, blancs. Et pour cause, il a été adopté. Et un soir, encore ado, il décide de dormir à la Belle Étoile. Et dans un semi-sommeil, il reçoit l'apparition étrange d'un Cherokee. Au-dessus de son visage.
Un Indien, quoi.
Un Indien. Il sent que...
pas un Range Rover.
Non. Il sent que quelque chose ne tourne pas rond. Et là, il court vers sa maison, le cœur battant, et il découvre ses parents massacrés. Et on l'accuse un temps de parricide, la faute à un autre meurtre sordide commis quelques jours après, et à la Bible de son père retrouvée sur les lieux du crime. Et trop tard, le sort en est joué. L'enquêteur a fait de la mort son tuteur et commence inconsciemment la traque de l'assassin originel à la façon d'un trappeur. Alors, bon, bien entendu, moi j'ai adoré le Cherokee. Enfin, ce livre, bon, déjà, c'est un western hilarant qui met en scène un héros synesthésique, un peu à la façon...
Synesthésique.
Synesthésique. Un peu comme qui a des facultés sensorielles ultra développées.
D'accord.
Et qui ne ressent pas les choses et qui ne voit pas les choses de la même façon que nous. Et ce qui rend le Cherokee inclassable et original, polar, thriller, western, eh bien, on ne sait pas trop, réside dans le choix de l'auteur de détourner les codes. Voilà. Et je dirais qu'entre les mains... Plus qu'un page-turner, on a affaire à un page-kicker. Oh yeah!
Waouh, quel punchline! Merci à tous les deux. Et on a dit donc de Pierre et d'Os, de Bérangère Cournue, ça c'est pour vous, Jérémy Banel, et Richard Morgiev, le Cherokee, aux éditions Joël Losfeld. Merci beaucoup à tous les deux. Direction le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande. A tout de suite.
Il était une fois.
Dernier chapitre de La Voix et Livre, et il est temps de retrouver le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et aujourd'hui en plus il y a une innovation, puisque vous présentez un livre, mais un magazine.
Oui, une revue trimestrielle qui s'intitule Dong, un magazine...
Avec un point d'exclamation.
Exactement, un magazine de reportage pour les 10-15 ans. 70 pages, tous les 3 mois, pour prendre le temps. Pêle-mêle, vous y découvrirez comment les anti- et les pro-ours s'affrontent dans les Pyrénées. Vous partirez à la rencontre aussi d'un enfant Rohingya au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés du monde. Mmh. Vous comprendrez ce qui anime les passionnés du e-sport, ces gamers qui s'entraînent comme de vrais champions.
Les jeux vidéo, quoi.
Exactement. À chaque fois, des reportages sur la longueur, très incarnés, avec tantôt des illustrations, tantôt des photographies. C'est décrit avec beaucoup d'intelligence. Il y a donc la partie grand reportage, mais vous trouverez aussi dans chaque numéro un développement sur un métier. Ça intéressera forcément les ados qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire plus tard.
Et il y a quoi d'autre ?
Il y a plein de rubriques, des autoportraits, des entretiens et une lettre d'un genre particulier que j'aime beaucoup, qui est très maligne, une correspondance intergénérationnelle que décrit Raphaël Bott, la rédactrice en chef du magazine Dong.
L'idée, c'était vraiment d'instaurer un dialogue assez spontané, sans qu'on s'immisce, entre un adulte et un ado. Donc l'adulte écrit son texte, donc là une mère ou un père, et puis l'ado biffe, corrige, dessine, barre, et peut écrire ce qu'il veut. Alors ça donne des choses parfois marrantes, parfois émouvantes, parfois on se dit « Ouh là là, est-ce qu'il se rend bien compte de ce qu'il écrit ?» Mais voilà, nous, on laisse tout passer, on donne aucune consigne de sujet, donc c'est marrant de voir ce qui émerge. Voilà, on trouvait que c'était une rubrique qui permettait une forme de spontanéité, et en même temps, le fait que ça soit par écrit, ça demande de prendre un temps, d'y réfléchir, voilà, c'est pas des SMS non plus.
On va donc retrouver.
Il y a de l'idée.
Ouais, on va retrouver par exemple un père qui explique à sa fille qui vient d'entrer en sixième pourquoi. Et oui, ça c'est une des questions qui revient souvent. Pourquoi il ne veut pas lui acheter de téléphone portable? Sa fille justement, elle va corriger ses fautes d'orthographe. Elle se moque de lui. C'est vraiment savoureux. Dans une autre lettre, c'est une maman qui essaie de rentrer dans l'intimité de sa fille sans être trop intrusive, mais il y a quand même un petit peu de
compliqué.
Mal. Ouais, très compliqué. Une manière très habile en fait de se rendre compte des différences entre les générations. Des différences souvent à cause d'un manque de communication, bien évidemment. Enfin, un dernier mot sur une autre rubrique que les ados vont adorer, ça s'appelle l'actualité de l'environnement qu'il ne fallait pas manquer ces trois derniers mois. Et là, en fait, ce sont des brèves illustrées par Museau. Et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles sur le climat dans le dernier numéro qui vient de paraître. Vous découvrirez notamment comment cueillir des feuilles de salade et tout ce que l'on peut manger dans la nature.
Et on rappelle le titre de ce nouveau magazine, Dong. C'est donc un trimestriel édité par Actes Sud Junior. Et on peut la retrouver en librairie, c'est
exactement,
bien ça ?
Exactement, exactement, Nicolas.
Merci beaucoup, Victor.
À la semaine prochaine, Nicolas.
Salut.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.